Orange, cyberdéfense.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. It's now.
Imaginons un instant la scène. Il est, 3 heures du matin dans le centre de contrôle d'un fournisseur d'accès. Et là, sur les écrans principaux, il y a des lignes de code qui commencent à s'effacer.
L'angoisse totale.
C'est ça. Des serveurs entiers qui disparaissent du réseau les uns après les autres. La panique s'installe et soudain, le téléphone de l'administrateur système vibre.
Et c'est le message Telegram, c'est ça?
Exactement. Une notification Telegram d'un parfait inconnu avec un émoji sarcastique qui lui demande en gros si son super antivirus de dernière génération fonctionne bien.
Ouais, c'est glaçant.
Complètement. Et le truc, c'est que ce cauchemar opérationnel, c'est pas un scénario de film dystopique, c'est une réalité documentée, une méthode opératoire qui redéfinit vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre hybride.
Mais en fait, cette scène, elle illustre parfaitement la bascule qu'on est en train de vivre. Parce que pendant des décennies, le diagnostic d'une cyberattaque, ça ressemblait à de la mécanique pure.
C'est-à-dire ?
On cherchait la faille, quoi.
Voilà.
On isolait la faille, on identifiait la signature du code malveillant et on colmatait la brèche. C'était un problème binaire, vraiment circonscrit aux machines. Sauf que les données qu'on analyse aujourd'hui montrent que le champ de bataille, il s'est déplacé. La cible finale, c'est plus seulement le microprocesseur. C'est le cortex cérébral de l'opérateur qui est derrière son écran.
Et c'est exactement l'objet de notre plongée en profondeur d'aujourd'hui. D'ailleurs, il faut préciser que cette analyse est présentée par le Bureau du renseignement cyber.
Le Cyber Intelligence Bureau, oui.
C'est ça, qui est une division du laboratoire d'épidémiologie d'Orange Cyberdéfense. Et leur approche méthodologique, je la trouve fascinante parce qu'elle ne se contente pas des traces techniques habituelles.
Non, c'est beaucoup plus vaste.
Ouais, ils combinent des techniques d'OSINT, donc le renseignement en source ouverte, avec des preuves UMINT, le renseignement d'origine humaine. En fait, l'idée, c'est d'intégrer une véritable analyse émotionnelle, intellectuelle, cognitive et géopolitique des influences de ces cybermenaces.
Parce que, honnêtement, juste regarder des adresses IP ou des lignes de code, ça donne qu'une vision en deux dimensions de l'incident.
C'est clair.
Intégrer l'analyse cognitive, ça permet de comprendre la stratégie globale d'un groupe. On étudie comment l'intelligence émotionnelle est instrumentalisée pour manipuler les perceptions, générer de la peur ou paralyser les décisions.
Et ce prisme-là, ça nous amène directement à notre sujet du jour. Le groupe, connu sous le nom de BO Team ou Black Owls.
Parfois appelé BOTMUA dans les rapports, oui.
Tout à fait. C'est un groupe activiste pro-ukrainien qui est devenu super visible depuis début 2024. Et les rapports factuels montrent qu'il se focalise exclusivement sur des infrastructures situées en Russie et en Biélorussie.
Aucune cible européenne n'est mentionnée dans les données.
Exactement. Et notre mission ici, c'est de décortiquer la mécanique de ce groupe, de comprendre comment il fusionne l'intrusion technique avec des opérations psychologiques hyper complexes.
Tout à fait.
Et un point important, on aborde ces sources sans aucun jugement moral. Le but, c'est pas de distribuer des bons ou des mauvais points, mais vraiment d'observer les faits de manière strictement analytique.
Et pour bien les analyser, faut d'abord casser le stéréotype du activiste classique. Tu sais, l'image du gars qui lance une attaque par déni de service, qui inonde un site web pour le faire tomber pendant 2 heures.
Le truc très bruyant, quoi.
Voilà, c'est bruyant, l'effet médiatique est immédiat, mais au final, l'impact structurel est quasi nul. Les données révèlent que BO Team, ils opèrent sur un modèle diamétralement opposé. Ils ont une patience opératoire redoutable.
Ouais, quand on parle de patience, on fait référence à ce qu'on appelle le temps de séjour, le fameux dwell time, non?
C'est exactement ça.
Ça veut dire qu'ils rentrent pas pour tout casser à la minute. S'ils utilisent des portes dérobées genre Dargate ou Remcos, qui sont citées dans l'analyse, j'en déduis que le but, c'est d'abord de devenir complètement invisible, de se fondre dans la masse.
Complètement. Le temps de séjour, ça se compte parfois en semaines, voire en mois. Ces outils-là, ils sont faits pour échapper aux antivirus classiques. Une fois à l'intérieur, ils cartographient tout, en silence.
Ils fouillent partout, quoi.
Ils lisent les mails internes pour comprendre la hiérarchie, ils repèrent où sont les sauvegardes critiques, les bases de données vitales, et une fois que la toile est tissée, bam, ils déploient leur charge destructrice.
Du genre...
Souvent des utilitaires d'effacement, comme SDelete, ou des ransomware comme Babook, pour chiffrer les données de façon irréversible.
Si on fait une analogie, le hacktivisme classique, c'est genre jeter une brique dans la vitrine d'un magasin. Ça fait un fracas énorme, tout le monde regarde, mais bon, le lendemain, le proprio remplace la vitre et c'est reparti.
C'est ça.
La méthode de Beoteam, ça fait plutôt penser à une équipe de démolition silencieuse. Ils rentrent la nuit, ils étudient les plans pendant des semaines pour trouver les piliers porteurs et ils placent des charges explosives numériques partout.
Et quand ça pète, tout s'effondre.
Voilà. Quand la détonation se produit, la reconstruction immédiate est juste impossible.
Et si on garde cette image des piliers porteurs, le choix de leur cible prend tout son sens. Prenons le Centre de recherche spatiale Planeta.
Ce qui traite les données satellitaires.
Exactement. En détruisant leurs serveurs, on a affaire à une dégradation immédiate des capacités d'observation météorologique de l'État, des données qui ont une valeur stratégique et militaire. Un autre cas, c'est Gascar Group, un fabricant de drones. Là, on tape directement sur l'infrastructure informatique qui soutient la chaîne de production militaire.
Il y a aussi ce dossier de EFIS Service dans les sources. Ça m'a bluffé. C'est un fournisseur de services informatiques. On parle de la destruction de 45 serveurs de virtualisation et de presque 690 machines virtuelles.
Des centaines de téraoctets volatilisés.
C'est énorme. Mais pourquoi cibler un fournisseur informatique plutôt qu'une administration directement ?
Parce que ça crée un effet de cascade mécanique. Et EFIS Service, ils hébergeaient l'informatique de plein de clients industriels, des entreprises logistiques, des entités étatiques. Détruire ça, c'est comme incendier un immense garde-meuble.
Ah ouais, tu crames pas juste le bâtiment, tu crames les affaires de centaines de locataires à l'intérieur.
Voilà. En une seule opération, il paralyse les activités quotidiennes d'une multitude d'organisations. Et encore une fois, ce ciblage est très contenu géographiquement.
Je comprends bien la logique d'effondrement systémique. Mais il y a un détail qui me chiffonne. Les rapports parlent de ransomware, et donc de demande de rançon.
Ouais, l'extorsion financière.
C'est paradoxal, non ? Si ton but géopolitique, c'est le sabotage pur et dur, pourquoi t'encombrer à demander de l'argent ? C'est plutôt le truc des cybercriminels motivés par le profit, ça.
C'est une excellente question. L'observation amène à postuler une hybridation des motivations. En gros, c'est typique des conflits asymétriques modernes. L'hypothèse, c'est que demander une rançon ajoute une pression économique directe.
D'accord, donc on détruit la logistique d'un côté...
Et on draine les réserves financières de l'autre. La cible est prise au piège. Soit elle paie définitivement ses données vitales, soit elle paie et, de fait, elle finance l'effort de guerre du camp d'en face.
L'étau tactique parfait, quoi. Ça doit générer une souffrance psychologique énorme. Et ça nous amène au volet le plus troublant de l'enquête. Parce que, ok, ils ont un niveau technique de foufou, mais l'intrusion informatique, on a l'impression que c'est juste pour planter le décor.
C'est là que l'intelligence émotionnelle entre en jeu.
Exactement. Ce piratage cognitif. Sur leur canal Telegram, l'analyse montre qu'ils utilisent des techniques de psychologie, de programmation neurolinguistique, la fameuse PNL.
Notamment la technique du cadrage cognitif, le framing, qui joue sur deux tableaux.
En interne, d'abord, on peut imaginer la dissonance cognitive. Coder un malware, c'est abstrait. Mais effacer les données d'un hôpital virtuel géré par un prestataire civil, ça doit heurter la conscience, non ?
C'est sûr.
Est-ce que leur vocabulaire héroïque sert à se convaincre qu'ils sont des soldats et pas des vandales ?
L'hypothèse analytique valide ça. Le cadrage linguistique recadre des actes destructeurs en actes de défense patriotique. Ça crée un bouclier moral pour les opérateurs. Et en externe, ça fédère. En dénonçant une injustice, ils attirent des recrues et créent une identité de groupe très forte.
Et en externe, ce théâtre est hyper agressif. On a tous déjà cliqué sur un faux email en ayant cette petite sueur froide d'avoir infecté son PC. Imaginons ça à l'échelle d'un pays. Sur Telegram, ils font de l'humour noir, des montages, des moqueries.
Ils narguent publiquement les administrateurs.
Comme avec EFIS Service, oui. Pourquoi faire de cette attaque une humiliation aussi publique ?
L'ingénierie émotionnelle postule que c'est une tactique de saturation cognitive. Le but n'est pas d'être arrogant pour le plaisir, mais d'induire un sentiment d'impuissance absolue. Publier des captures d'écran des serveurs avec des commentaires sarcastiques, ça paralyse l'équipe d'en face.
Ils ont l'impression que l'attaquant voit tout, qu'il est omniscient.
C'est ça, ils rient de leur tentative de réparation. L'objectif inféré, c'est de créer une paralysie décisionnelle dictée par la paranoïa.
Et on voit ça dès le début, avec le phishing. Ils imitent à la perfection des partenaires industriels de leur cible.
C'est l'ingénierie sociale pure. En usurpant l'identité d'un fournisseur dans une période de tension, ils exploitent le biais d'autorité et le biais d'urgence. Un opérateur va contourner ses propres règles de sécurité pour résoudre un faux problème soi-disant urgent.
L'intelligence émotionnelle comme clé pour ouvrir le réseau physique.
Exactement.
Mais attends, j'ai quand même une objection sur cette histoire de moquerie sur Telegram. Et il y a un risque, non ? Si on m'humilie publiquement, la réaction primitive, c'est souvent la colère, pas la fuite. Est-ce que ça risque pas de galvaniser les équipes russes et de les souder ?
C'est une réaction logique de penser ça. Mais les modèles psychologiques de gestion de crise prolongée suggèrent l'inverse. Face à une asymétrie de l'information. L'hypothèse repose sur le tunneling attentionnel, couplé au biais de disponibilité.
C'est-à-dire ?
Un administrateur qui manque de sommeil, qui voit ses serveurs cramer et qui lit des moqueries constantes. Il subit une surcharge cognitive massive.
Ah, son cerveau bloque sur la menace immédiate de l'humiliation publique et il voit plus la stratégie globale.
Voilà, le tunneling attentionnel. La terreur d'être la prochaine cible moquée pousse à des réactions irrationnelles. Soit on surréagit et on épuise les équipes à chercher des fantômes dans le réseau, soit on se paralyse complètement de peur de déclencher un piège.
Donc le harcèlement cognitif casse la cohésion dont je parlais.
C'est ça, la résilience a du mal à tenir face à ça.
C'est super sombre comme panorama quand on croise cette destruction avec l'humiliation psychologique. Du coup, que disent les modèles de renseignement pour l'avenir ? C'est quoi les hypothèses pour la suite ?
Il y a deux axes principaux. Le scénario le plus probable, c'est une stratégie d'attrition continue.
Une guerre d'usure numérique, en gros. Pas de grand coup médiatique unique, mais une pression constante sur l'industrie et la logistique.
Tout à fait. L'utilisation d'outils comme Babuc pour imposer des coûts de restauration énormes, on infère une dégradation lente des capacités adverses. L'avantage pour eux, c'est que ça reste géopolitiquement contenu, ça provoque pas d'escalade internationale majeure, mais l'adversaire souffre.
Une mort à petit feu. Et le deuxième scénario ?
Les sources parlent d'un scénario à haut risque.
Le scénario de la cascade sur les infrastructures critiques ?
On parle des systèmes SCADA ou OT.
Ah, on quitte les bases de données là. SCADA, c'est ce qui contrôle les processus physiques. Les vannes d'un barrage, la tension d'une centrale électrique.
Oui, l'OT, c'est la frontière entre le code et la réalité physique. L'hypothèse dangereuse, c'est que le groupe, peut-être en s'alliant avec d'autres entités très avancées comme Edman, arrive à compromettre ses réseaux vitaux de manière persistante.
Ça donne le vertige, surtout si on ajoute la couche cognitive. Imaginons un blackout majeur dans une ville causé par une cyberattaque. L'impact matériel est catastrophique. Mais avec la doctrine de BioTeam, la panne n'est que l'acte 1.
Bien sûr, Telegram prendrait le relais.
Directement. Il diffuserait les preuves de l'intrusion pour montrer l'incompétence des autorités. Il lancerait des rumeurs d'autres pannes. Le but, ce serait de fracturer la confiance entre la société civile et les institutions.
La convergence de l'attaque physique et de la saturation psychologique, c'est vraiment l'aboutissement théorique de la guerre cognitive. La panne devient un amplificateur pour l'influence. La panique sociale, c'est bien plus dur à réparer qu'un réseau électrique.
L'objectif, c'est de désorienter la réalité perçue. Ça résume parfaitement l'enjeu. L'étude de BioTeam nous prouve que maîtriser le code informatique, c'est que la moitié de la bataille aujourd'hui.
Clairement.
L'autre moitié, souvent plus dévastatrice, c'est le piratage des perceptions humaines. Utiliser la PNL, jouer sur les biais, transformer la paranoïa en arme.
Et de voir des acteurs non étatiques maîtriser ces paramètres émotionnels et cognitifs avec une telle précision, ça soulève une question vertigineuse.
Vas-y.
Si on maîtrise l'art d'implanter des malwares et d'implanter la peur dans les esprits avec autant de finesse, comment, dans le futur, nos sociétés pourront-elles distinguer une véritable attaque d'infrastructure d'une simple illusion numérique créée de toutes pièces pour manipuler nos croyances collectives ?
La frontière entre le matériel et le psychologique n'a jamais semblé aussi fine. C'est une question qu'il va falloir garder en tête. Merci d'avoir suivi cette exploration en profondeur des cybermenaces.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. We'll be talking about it on this channel very soon.
Orange, cyberdéfense.